inédit de la Grande Guerre.
40 épisodes collectés par les archives départementales de la Côte d'Or
et lus par leur directeur, Édouard Bouillet.
Épisode 36.
Fraternisation et miracle.
Dès le début de la guerre, tout au long de la guerre et jusqu'à la fin, il y a des tentatives de fraternisation, touchantes et éphémères, mais aussitôt réprouvées par le commandement, et dangereuses si les deux lignes qui se font face ne sont pas à l'unisson. Ainsi, Gabriel de Goy, caporal sapeur au 60e régiment d'infanterie, raconte.
Jeudi 19 novembre 1914. Nuit glaciale, de la glace et du givre partout. Un incident bizarre. Sur les tranchées en face de Saint-Victor, un caporal du 44e a été appelé depuis les tranchées allemandes. Ne craignant rien, il s'y est rendu et là, un capitaine allemand l'a fort bien reçu, en lui disant qu'il n'en voulait pas aux Français, mais aux Anglais. Il lui a remis des cigares, des cigarettes. Les Français sont alors sortis de leur réduit, et les Allemands ont fait de même. Que penser de cette manière d'agir? Le général, avisé, a donné l'ordre de redoubler de surveillance.
Ces scènes se multiplient quand tous sentent que la fin de la guerre est proche. Ferdinand Georgel, originaire de Champagnole dans le Jura, est brancardier au 5e régiment territorial d'infanterie. Il assiste à une scène récurrente fin octobre 1918.
Ces jours derniers, j'ai vu une chose curieuse. À notre gauche, il y avait des Américains, et devant eux et nous, naturellement, des postes Boche. Or, un matin, nous voyons un Boche qui allait d'arbre en arbre chez les Américains. Les Américains le laissent venir, le Boche leur explique qu'il a faim. Les Américains lui donnent du pain, de la nourriture, et le Boche retourne chez lui. Alors le lendemain, le Boche amène d'autres camarades qui demandent à manger. Les Américains leur donnent à manger, et après, tous les matins, les Boches allaient manger chez les Américains jusqu'au jour où ils sont tous venus, et alors les Américains les ont tous fait prisonniers.
Dans l'atmosphère orageuse de l'enfer de Verdun, en juillet 1916, les seuls animaux vivants sont les vers et les mouches. Et pourtant, André Biteau décrit un événement minuscule, mais de grande portée pour tous ceux qui ont assisté.
Eh bien, un jour, un miracle se produisit. Ah oui, un vrai miracle. L'événement était quasi inconcevable. Cela dépassait l'entendement humain. Nous en fûmes stupéfaits et en même temps émerveillés, nous qui étions isolés, complètement retranchés du monde, moitié morts ou considérés comme tels. L'espoir, la joie et le réconfort nous furent apportés par une bien petite chose, une visite bien fugitive qui nous remit un peu de baume au cœur. Tous, le temps de quelques secondes, nous vîmes un petit oiseau qui voletait et se posa sur une branche mutilée, ses deux petits yeux ronds, étonnés, nous fixant un moment. Il ouvrit le bec et, comme pour nous parler, lança quelques notes et hop, fuyant la folie des hommes, il s'envola plus loin, emportant avec lui comme un espoir de survie et un message d'espérance. Cette visite produisit un effet inexprimable sur nos pauvres âmes en désarroi. Inexplicable pour ceux qui n'ont pas connu les affres provoquées par notre situation. La vue de ce petit passereau me procura une des plus grandes joies consolatrices de ma vie.
Parfois, la survie du poilu tient aussi du miracle. Et à quoi pense-t-on quand on croit que l'on ne peut que mourir? Évacué vers un hôpital de Bergerac, Stéphane Bertrand, dont les parents demeurent à Saulon-la-Rue, leur raconte, dans une lettre datée du 7 novembre 1918, ce qui lui est arrivé quelques jours auparavant.
Dès le petit jour, nous nous étions approchés à travers un feu de barrage qui nous avait déjà bien éprouvés. Nous apprenions là par des coloniaux que nous allions nous heurter à des hussards de la mort. Perspective peu encourageante, puisqu'avec ces gens-là, il faut tuer pour ne pas être tué. Ça promettait donc d'être très dur. Et en effet, à 3 heures, lorsque nous partons de l'avant, précédés par les chars d'assaut, nous sommes accueillis par un violent feu de mitrailleuse. Tout de suite, j'ai la sensation qu'il va y en avoir pour moi. Et 200 mètres plus loin, je reçois tout à coup un grand choc au flanc gauche. Je fis un tour sur moi-même, puis je tombai à plat ventre, les bras pris sous le corps. Je crus que j'avais les reins coupés, je perdais beaucoup de sang, mon pantalon était tout rouge. Avec mon couteau que j'avais réussi à prendre, je coupais les courroies de mon sac, mon équipement et mes musettes. Je fus un peu soulagé. À ce moment-là, les Boches déclenchèrent une contre-attaque. Ma compagnie est obligée de se replier, les tanks aussi. Alors voici l'effarante situation qui me fut faite. Dans l'impossibilité de me déplacer, je vis à 50 mètres un tank français qui reculait en tirant et venait directement sur moi. Il ne pouvait pas me voir, il ne pouvait pas m'entendre, et il allait m'écraser. Je vécus là quelques minutes effroyables. Je crus devenir fou. Quand il ne fut plus qu'à quelques mètres, dans mon cerveau presque vide, comme un éclair, passa une idée. Je pris une grenade dans ma musette, je l'amorçai et la fis rouler à côté de moi. Elle explosa, me blessa un peu au bras, mais le tank, surpris, dévia légèrement pour voir ce que c'était. Et la monstrueuse machine passa à 30 cm de moi, écrasant mon bidon à mes côtés. Le spectre était passé. En arrivant à l'hôpital, je regardais dans une glace si mes cheveux n'avaient pas blanchi. Le tank parti, un autre danger apparut, les Boches maudits qui avançaient. Ah, cette fois, je n'eus plus guère d'espoir, ils allaient me prendre et m'achever. Devant cette situation presque sans issue, je ne trouvais rien d'autre à faire que de pleurer, et j'ai pensé à vous tous. Puis, dans un accès de rage, je retrouvai la force de me mettre à 4 pattes et je voulus me traîner. Les balles crépitèrent, j'en reçus une dans le pied droit et vaincu par la douleur, je m'écroulai complètement, me disant que c'était fini. Seule la Providence pouvait me sauver. Et elle arriva, sous la forme du 1er bataillon, mes braves petits camarades de la 3e, avec lesquels je m'étais battu plus de 2 ans. Vous ne pouvez vous imaginer la joie que j'eus de les revoir en un pareil moment, juste pour me sauver. L'un d'eux, un petit de la classe 17, avec lequel j'étais très camarade, me donna un peu d'eau de vie et me serra la main en me disant « T'en fais pas, Fafan, ils vont payer cher ce qu'ils viennent de faire !» Puis il partit. Peu après, le crépitement des mitrailleuses s'était tu, et je compris qu'ils avaient tenu parole. À partir de ce moment-là, ce fut les longues heures d'attente, les brancardiers qu'on attend, qui ne viennent pas, les appels sans réponse, la soif, la nuit, le froid. J'étais transi. Le sang était coagulé sur ma peau, je tremblais, je claquais des dents. S'il fallait vous dire à quoi j'ai pensé, je remplirais 100 pages.